Bon, eh bien, bonjour à tous, merci d'être là. Donc, pour cette petite rencontre avec Catherine Ferrier, dessinatrice, illustratrice et co-scénariste de la série Hôtel Étrange, et aussi qui transmet les recettes de sa grand-mère en même temps dans l'album. Ouais. Merci. Merci. Et Florian qui m'apporte le café, Ferrier, scénariste de la série. Donc, tous les deux, vous avez créé cette série il y a quelques années par, comment dire, pouvez-vous nous raconter un peu la genèse de cette histoire d'Hôtel Étrange? Alors d'abord, pourquoi ça s'appelle Hôtel Étrange? Et, quelle est, et après, tu nous expliqueras la genèse.
Bah, vas-y, commence.
Bonjour. Pourquoi Hôtel Étrange? Je ne sais pas trop, c'est venu comme ça. En fait, c'est un mini-roman que j'ai écrit quelque part en 2009, quelque chose comme ça, voilà. Et avec Catherine, en fait, on voulait en faire une bibliothèque rose, au départ. Parce que j'ai toujours aimé cette collection.
On voulait relancer la collection de la bibliothèque rose. Très
voilà.
modeste.
Et chez Hachette, quand j'ai été les voir, je connaissais quelqu'un qui s'occupait de la bibliothèque rose, qui m'a dit, mais mon pauvre ami, on ne fait plus de projets originaux à la bibliothèque rose depuis très longtemps. On fait des licences, c'est-à-dire on fait Totally Spies... on fait Titeuf en mini-roman et tout ça. En fait, on prend les scénarios des séries télévisées et puis on les réécrit pour faire des petits romans. Donc à ce moment-là, on s'est dit, bon, ben, si on ne peut pas faire de Bibliothèque Rose, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et comme on ne voulait pas abandonner le projet, on s'est dit, ben, on va faire une bande dessinée. Et voilà, c'est comme ça que Côté l'étrange a démarré. Quoi.
Voilà. Moi, je suis, à l'origine, je suis illustratrice de livres pour enfants. J'ai fait ça pendant des années. Et j'avais envie de passer à autre chose, de travailler sur un projet à moi, de l'histoire au dessin. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion quand Florian m'a présenté son histoire et ce petit roman pour dire si on le transformait en bande dessinée. Donc, c'était d'abord un premier tome. Et puis après, au fur et à mesure, comme on a des idées tout le temps, c'est en train de devenir une série.
Donc, vous en êtes actuellement à 4 tomes.
Voilà, on est en train de faire le cinquième.
Oui, vous êtes en train de faire le cinquième. Mais vous n'avez toujours pas dit pourquoi ça s'appelle Hôtel Étrange. Parce que les personnages, ça vient de...
Moi, je me souviens que Florian cherchait un titre très simple et facile à dire à la fois en français et en anglais. Je me souviens que c'était une... Et que Strange Hotel, c'était aussi...
Enfin, je ne sais même pas si on traduirait comme ça. Mais...
En plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, comme c'est l'histoire d'une petite pension de famille... Mais voilà. Enfin, les titres, c'est toujours une question à laquelle il est difficile de répondre. Je me souviens plus. On a dû en écrire des dizaines comme ça, et puis on a choisi celui-là et bien sûr avec l'éditeur, parce que l'éditeur a aussi son mot à dire. Et je pense que parmi tous les titres qu'on lui a présentés, c'est celui-là qui a dû retenir son attention. Voilà.
Donc, cet hôtel étrange et ces personnages, ils viennent vraiment d'une envie de faire quelque chose, une bande dessinée qui ne s'adresse pas forcément à un public classique de la bande dessinée, qui est amateur de séries genre Tintin, et tout ça, mais plutôt un public qui est encore un peu plus jeune, qui est quand même vraiment un débutant lecture et qui est du passage du livre jeunesse pour le faire à travers la bande dessinée, essayer de raconter quelque chose qui vous concerne. Je crois que c'est vraiment une envie qui vous tenait à cœur et c'est vraiment un projet que vous avez mûri tous les deux et vraiment construit tous les deux ensemble.
Il y a le dessin de Catherine, comme elle vient vraiment de l'illustration jeunesse qui est vraiment pour les enfants, qui est assez riche, avec beaucoup de détails, beaucoup de petites choses rigolotes planquées dans les cases tout le temps, etc. Et donc, l'idée, c'est ce qu'on dit toujours avec Catherine, il y a plusieurs façons de regarder les enfants, c'est soit on baisse la tête, soit on fléchit les jambes. Quoi. Nous, on voulait vraiment fléchir les jambes, c'est-à-dire se faire quelque chose qu'on appelle, nous, à hauteur d'enfant, c'est-à-dire... redescendre du statut d'adulte pour les regarder comme eux voient le monde, c'est-à-dire avec un mètre de moins quoi, en hauteur. Ça change énormément le point de vue quand on se baisse quoi. Voilà. Et nous l'idée c'était vraiment de faire ça quoi. C'est une bande dessinée qui est effectivement, je pense quelque part une sorte de chaînon manquant entre le livre jeunesse et la bande dessinée. Parce qu'on utilise, même si c'est sous forme de cases, on utilise peu, parce que ça s'adresse vraiment pour nous à l'école primaire. Hein. Donc on n'est pas très à l'aise avec le flashback, on n'est pas très à l'aise avec les ellipses à cet âge-là et tout ça. C'est des mécaniques de récits qu'on comprend quand on est, voilà, quand on est adulte. C'est pas forcément des choses qu'on comprend bien quand on est plus petit. Et donc on essaye de faire des récits qui soient relativement linéaires, sans que ce soit un gros mot, mais où vraiment chaque chose est suffisamment expliquée pour qu'elle soit, voilà, pour qu'elle soit comprise et intégrée pour pouvoir aller au bout de l'histoire sans avoir l'impression qu'on a raté quelque chose à un moment, quoi. Voilà.
Voilà, comme le choix de faire, même si c'est une série, de faire une histoire qui se termine à chaque fois. On peut lire les albums indépendamment les uns des autres. Et à chaque fois, en page de garde, on a vraiment essayé de réfléchir à un maximum de choses, comme une présentation assez classique dans la page de garde, où on présente chacun des personnages qu'on va retrouver dans l'histoire et voilà, avec leur nom.
Alors ça, j'y tenais, ouais, c'est l'hommage à Astérix et Obélix, hein, où on a la présentation des persos en intro. Ça me paraît pas si bête que ça, et même très, très nécessaire, quoi, pour rentrer tout de suite dans le sujet, c'est-à-dire, voilà, ça, c'est les personnages principaux, voilà leur nom. Et après, on va vous raconter une histoire, quoi. C'est voilà, si Goscinny l'a fait, ça peut pas être mauvais. Hein.
Donc, à propos de ces personnages, là, on a affiché la couverture du premier album. On les voit, tous ces personnages, ils sont là. Donc, vous allez nous les présenter finalement, peut-être un peu, Catherine. Non, donc, si on parle de celle-ci, c'est Mariette.
Ouais, c'est le principe des couvertures surtout. C'est-à-dire qu'il y a toujours les cinq personnages sur la couverture. Même si c'est pas un moment de l'histoire, c'est rarement d'ailleurs un moment de l'histoire, mais voilà, à chaque fois on présente pas ce qu'il va y avoir dans l'histoire, mais on présente toujours les cinq personnages dans une situation.
Donc si on peut développer un peu les personnages, donc on va commencer par Marietta, qui est un peu, comment dire, on peut dire le chef de file de la famille.
Ouais.
C'est l'aîné, c'est le chef de file, c'est qui,
C'est un peu l'âme de la grande sœur, un peu le côté maternel, on va dire, de la petite bande, l'élément féminin, le plus féminin, de celle qui résout pas mal de solutions et de problèmes, et qui aime ça en plus, et qui se trouve bien et à l'aise là-dedans, en fait.
Elle est à l'aise dedans, ouais.
Ouais. Alors, mais je veux préciser quand même qu'on a pris le parti de faire des histoires, parce que c'est vraiment un univers imaginaire, avec des petits personnages imaginaires, dans lesquels il n'y a pas d'adultes.
Voilà. Oui, on voit bien, ouais.
Voilà.
Enfin, peut-être un peu le personnage-là, comment c'est le sou
celui que... Ah, monsieur Leclerc, mais en fait...
Il
peut avoir une apparence adulte, mais ça reste un grand enfant, quoi.
C'est une espèce de professeur tournesol, comte de Champignac.
C'est quelqu'un qui peut être de très mauvaise foi, qui ne supporte pas d'avoir tort, etc. Donc, il a, comme tous les personnages, ils ont une facette adulte et une facette enfant. Aucun n'est le véritable héros de l'histoire. C'est ensemble qui sont forts. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils ont des qualités, chacun et des défauts. Il n'y a pas dans Hôtel Étrange de méchant. Ça n'existe pas. Je ne crois pas au concept de méchanceté comme ça, comme chez Walt Disney par exemple, où il y a un méchant et il est méchant parce que. Voilà, bon. Ce qu'on disait tout à l'heure, si on mettait le capitaine Crochet chez le psychanalyste, il aurait certainement vachement de trucs à raconter en vrai, quoi. Sur son enfance et tout ça. Donc on n'est pas méchant et il n'y a pas de méchant dans Hôtel Étrange. C'est plus compliqué, entre guillemets, que ça. C'est vraiment d'inspiration des illustrateurs et des auteurs scandinaves, c'est-à-dire que chacun a des qualités et des défauts, il faut vivre avec. Soi-même et puis les autres aussi, quoi, doivent vivre avec vos défauts et vos qualités, quoi. Et c'est cet ensemble qui fait que ça crée une forme d'harmonie, si tant est qu'on arrive, voilà, à accepter les défauts des autres, quoi.
Oui, c'est comme au sein d'une famille, en fait, avec une fratrie, et puis voilà, chacun a ses envies, est obligé de composer avec les autres et le caractère des autres, voilà.
Oui, c'est un peu les enfants sauvages de Peter Pan, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas d'adultes, mais on peut avoir des comportements adultes par moment ou pas, ou des comportements très enfantins. Ça dépend des situations rencontrées, quoi.
Donc, on a vu Célestin, on a vu Marietta. On va voir ce Kaki. Alors, Kaki, il a une forme particulière. C'est un personnage complètement imaginaire. Il a un côté assez extraordinaire, quoi.
Notre éditeur dit, quand il le vend, c'est un gant de toilette. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Alors, ce qui est assez étonnant, d'ailleurs, avec Kaki, c'est qu'on a... Dans nos lecteurs, des enfants qui pensent que c'est une fille et des enfants qui pensent que c'est un garçon. Donc c'est assez intéressant. Ça veut dire que qu'on n'a pas trop raté notre coup. C'est vraiment un personnage très, justement, très asexué, mais qui est je pense qu'il représente vraiment, lui, dans cette histoire, l'enfant, quoi. C'est-à-dire il est capricieux, il est menteur, il est égoïste, il a vraiment énormément de ce qu'on pourrait appeler
tu fais une description des enfants
de
super.
Défauts. Non mais il a ce côté très entier quoi.
C'est un troublillon.
Voilà, il est
pas
beaucoup. Voilà, il est pas dans la mesure, disons. Ouais. Voilà.
On va passer à Célestin, alors qu'on voit avec son petit chapeau de champignon, son balai, c'est un personnage celui-là, qui fume la pipe en plus.
Bon alors Célestin, c'est un personnage qui, alors il est toujours avec eux, mais il ne vit pas avec eux. Célestin, c'est un peu un personnage qui aime sa tranquillité, qui aime la solitude, donc il vit dans une maison pas très loin de l'hôtel, mais suffisamment loin quand même, quoi, pour pas qu'on lui casse les pieds tout le temps. C'est un personnage qui, même s'il aime beaucoup les autres, a besoin de sa part de solitude et de tranquillité, quoi. Ouais. Voilà.
Et le cinquième personnage, Snarf, le fantôme, personnage aussi assez extraordinaire.
Oui, c'est le personnage très délicat et peu bavard. C'est le fantôme du registre, donc c'est plus qu'un fantôme, c'est l'âme, c'est vraiment l'âme de l'hôtel, quoi, enfin de la pension. Il connaît tout le monde, il connaît tous les clients par cœur, par leur prénom. C'est un personnage, voilà, assez, comme je disais, assez délicat, très bien élevé. Il n'a jamais un mot au-dessus de l'autre. C'est un peu le point d'équilibre. Il parle très peu et c'est jamais pour ne rien dire, quoi. Voilà, c'est
donc
très précis.
Et toute cette petite famille va vivre des aventures. Donc la première, ça. L'histoire de Thomas s'appelle l'hiver au printemps. Alors, le thème de l'histoire de l'hiver au printemps, c'est que l'hiver continue quoi, dans notre petit monde. Et puis, tout le monde attend le printemps. Et le printemps n'arrive pas. Alors, que vont-ils faire? Quelle va être leur aventure? Et que vont-ils décider? Parce que le printemps, ils en ont besoin, parce que les choses n'avancent pas comme ils veulent. Et donc, ils vont partir rechercher Monsieur Hiver ou essayer de le réveiller ou voir ce qui se passe. Quoi.
En fait, le parti pris des histoires de Hôtel Étrange, c'est qu'on part de thèmes qui nous tiennent à cœur, qui sont un peu sérieux, on va dire. À chaque fois, on parle. Là, on a parlé du climat. On avait envie de parler du climat et des dérèglements un peu qu'il y avait en ce moment autour de nous. Et là, c'est pour ça qu'on est parti sur cette histoire avec le printemps qui n'était toujours pas là. Tout le monde était sous la neige. Donc, plus rien à manger et c'était un peu catastrophique pour tout le monde. Et il a fallu partir à la recherche de Monsieur Hiver. Non, vas-y, raconte, c'est toi le scénariste, parce que là, je suis...
Non, l'idée, c'était de faire une aventure aussi sur l'inconnu, quoi. C'est-à-dire d'essayer de montrer que c'est pas forcément parce qu'on connaît pas quelque chose qu'il faut en avoir peur, quoi. Normalement, enfin, dans Hôtel Étrange, tel que nous, on l'avait imaginé, les personnages dorment l'hiver. Donc en fait, l'hiver, c'est une saison qu'ils ne connaissent pas. Normalement, la neige, ils ne la voient pas. Ils s'endorment avant et ils se réveillent quand c'est fini. Là, ils sont effectivement réveillés donc, pendant l'hiver. Et donc, puisque le printemps n'est pas arrivé, donc ils vont partir à la recherche du printemps, qui est un personnage et pas seulement une saison. Mais pour ce faire, ils vont devoir donc affronter l'hiver, qui est une saison qu'ils ne connaissent pas du tout. Voilà, donc... On peut découvrir des choses inquiétantes, non, puisque souvent les créatures de l'hiver sont des créatures un peu tristes parce que l'hiver n'est pas une saison très très gaie, quoi. Voilà. Ça, c'est la première aventure.
D'accord. Je vais voir ça.
Je sais pas, tu cherches.
On cherche une image de.
Tu l'avais. Oui, celle-là n'a jamais été utilisée, mais ça faisait partie des planches. Voilà,
planches de cette histoire. Donc, ils vont partir à la recherche. De Monsieur Hiver qui ne.
De Monsieur Printemps.
Printemps qui est resté endormi. Alors pourquoi est-il resté endormi? Qu'est-ce qui s'est passé quoi?
Ah bon, c'est juste une feignasse.
On va pas raconter toute l'histoire.
Oui, en fait, le principe de l'histoire, c'est que Monsieur Printemps est déjà là, simplement. Il était tellement fatigué qu'il s'est endormi à la cave. Et eux, donc.
Alors si tu racontes
sont
tout.
Partis, donc ils partent à l'aventure pendant l'hiver, à la recherche de Monsieur Printemps, où ils pensent que c'est Monsieur Hiver, en fait, qu'il le tient, entre guillemets, prisonnier. Ça, c'est évidemment le côté alarmiste toujours de Monsieur Leclerc, qui pense toujours qu'il se passe des trucs incroyables. Donc ils se lancent à la poursuite du personnage et ils découvrent l'hiver. Alors, Kaki découvre le ski. qu'au début, évidemment, il marche avec ses skis jusqu'à ce qu'on lui explique que ça, c'est censé glisser, quoi. Et du coup, évidemment, voilà, à partir de là, il va trouver que c'est déjà un peu plus marrant l'hiver, parce que marcher avec des skis, c'est super compliqué, quoi. Et donc, il y a plein d'anecdotes comme ça qui s'enchaînent.
Oui, ils vont découvrir plein de choses sur eux, sur les autres personnages. Ils vont apprendre comme un groupe à vivre ensemble et puis à découvrir.
Ben,
et à
voilà, c'est ça, mission, oui, quoi. Oui.
Donc, alors toi, Catherine, dans chaque album, tu as un principe, c'est que tu mets une recette de cuisine.
Si on peut appeler ça un principe, un petit clin d'œil, on va
dire. Un petit clin d'œil, voilà. Donc, tu mets à chaque album une recette de cuisine. Là, ça s'appelle les visites
étrangères. Les visites en ligne, c'est les petits gâteaux qu'on offre aux visiteurs qui viennent à l'hôtel étrange. Et en fait, c'était un clin d'œil à ma famille qui est très gourmande et les recettes de ma grand-mère, en fait, qui sont faciles à faire pour les enfants et pour les parents si on a envie. Voilà.
Donc, bande dessinée, album qui peut aussi servir à animer des goûters ou des choses comme ça. Qui peut servir ça. Donc, dans votre travail de collaboration, donc, quand vous faites un album, vous en discutez, c'est un travail de, comment dire,
collaboration.
Et puis de, comment dire, vous en discutez complètement et puis après chacun prend sa partie. Mais au début, c'est vraiment une envie de faire une histoire à deux et vous en discutez, vous êtes complètement d'accord sur l'histoire que vous allez faire, quoi.
Au départ, on se met d'accord sur un thème qu'on a envie de traiter, en fait.
C'est ça.
Voilà.
Moi, j'ai des idées. Je les balance sur la table à Catherine et on décide.
Voilà.
Par exemple, dans le tome 2, c'est l'argent. Dans le tome 3, c'est le pouvoir. Voilà. Dans le tome 4, c'est l'autorité et les interdits. Voilà, dans le tome 5, ce sera la propriété. C'est quoi la propriété? Pourquoi quelqu'un dit ça, c'est à moi, c'est chez moi? Voilà, enfin, c'est à chaque fois, on a un thème de fond comme ça qu'on aborde d'un point de vue à la fois philosophique et à la fois humoristique, évidemment. Il faut arriver à dédramatiser la chose. Mais voilà, le principe, c'est d'avoir vraiment un thème de fond qu'on traite ensuite au travers d'une histoire et au travers de personnages, quoi.
Voilà. D'accord. Et ce thème, qui est un thème qui peut se traiter à tous les niveaux, vous le traitez au niveau des enfants pour justement comment dédramatiser tout ça et donner quelques explications. Et après, dans les choix, comment dire, que vous faites, alors quel est le rôle de chacun? Après, une fois que vous avez décidé, chacun, Catherine qui est plus sur le dessin, l'illustration, vous faites comment dire, un pré-découpage?
Alors en fait, une fois qu'on a trouvé un thème et qu'on se met d'accord sur une histoire, Florian écrit deux ou trois pages de ce qu'on appelle un synopsis, qui est tout le déroulé de l'histoire. Il me le montre pour savoir si je suis d'accord et si c'est ça que j'ai envie de faire. Donc ça, c'est assez chouette parce que ça veut dire qu'il m'écrit des histoires sur mesure. Et une fois qu'on est d'accord là-dessus, il faut faire ce qu'on appelle le découpage. Donc vous pourrez voir un petit peu parce qu'il y a une expo là-bas avec des panneaux sur lesquels on explique un peu la façon dont on travaille. Et donc tout ce qui est la partie découpage, c'est-à-dire ce qu'on va voir dans chaque case, c'est le travail de Florian, voilà, avec la mise en place des dialogues. Ensuite, une fois que ça c'est fait, et ben moi je me lance dans l'exécution du crayonné, puis de l'ancrage et de la couleur. Voilà, c'est vraiment un travail en duo.
Le premier travail, c'est ça, c'est de répartir en fait l'histoire sur un nombre de pages. Parce qu'en bande dessinée, on a un nombre de pages imposé. Sur Hôtel Étrange, c'est 38. Donc quand je dis, par exemple, je ne sais pas, les personnages mettent des skis et apprennent à skier, est-ce que ça prend deux cases? Est-ce que ça prend une page? Est-ce que ça prend trois pages? Ça, c'est à nous de le décider pour que l'album soit équilibré et qu'en même temps, chaque étape soit bien comprise par les lecteurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le découpage, c'est-à-dire essayer de créer un équilibre, une harmonie dans l'intégralité de l'album.
Florian, on peut expliquer un peu le découpage, par exemple, sur cette planche? Donc, le fait de mettre une grande case en haut, une bande avec quatre cases et puis trois cases en bas.
Ça, par exemple, c'est pour montrer le temps qui passe par rapport à la planche précédente. C'est une case muette où on profite un peu du paysage, où on voit déjà Kaki, lui, fait derrière, voilà, il fait la tête, il râle parce qu'il essaye de marcher avec ses trucs, il n'y arrive évidemment pas. Voilà. Bon, ensuite, on voit Marietta qui regarde la glace, les pics et tout ça, donc un peu étonné parce qu'ils ne connaissent pas le truc. Et après, voilà, on repasse à Kaki. Voilà, le ski, c'est nul parce qu'il adore dire toujours tout est nul avant de découvrir que c'est bien. Et il commence par dire c'est nul. Voilà, je connais plein d'enfants qui commencent par ça.
Parce qu'ils n'y arrivent pas.
Et plein d'adultes. Oui, bah, de dire c'est nul avant même d'avoir essayé. Ça, c'est normal, c'est rigolo.
Oui, parce voilà, que dans la page suivante, il trouve ça très rigolo.
Ben voilà, évidemment. Après, il trouve ça sympa. Ben, on voit déjà dans la dernière case, quand il, voilà, quand Monsieur Lecaire lui dit, tu devrais essayer dans une pente. Il paraît que c'est plus, que c'est, voilà, il paraît que c'est amusant. Et là, ok, il commence à piger. Il y a ce qu'il va pouvoir en faire de ses skis, et évidemment des bêtises, puisque le principe de Kaki, c'est de systématiquement détourner tout ce qu'on lui dit et tout ce qu'on lui montre pour en faire quelque chose à sa sauce, quoi. Voilà.
C'est vrai qu'on se sert de tous les codes un peu classiques de la bande dessinée, on va dire, pour pouvoir raconter notre histoire, en fait.
D'accord. Alors toi, ton dessin, Catherine, plutôt, alors toi qui viens de l'illustration, tu as un dessin qui est quand même plus proche de l'illustration classique des ouvrages jeunesse, des livres Thiel, Ponty, Corentin. Et en, comment dire, et tu as choisi, alors quelles ont été pour toi les contraintes et les difficultés ou alors, que tu t'es donné pour vraiment donner à tes personnages ce que tu voulais?
Avant de toute façon de se lancer dans l'exécution d'un album, j'ai beaucoup travaillé mes personnages. Voilà, parce qu'il faut apprendre à leur faire des expressions différentes, pouvoir les dessiner un peu sous des angles différents, ce qu'on ne fait pas du tout en illustration, parce que souvent, le personnage, on le voit une ou deux fois, mais il est beaucoup moins animé que dans une bande dessinée. Alors c'était à la fois ce qui m'intéressait, mais c'était aussi
la plus,
difficulté.
Par rapport à l'illustration, on voit bien qu'une case, une case de BD, c'est plus petit qu'une grande page.
Voilà,
ou un livre
alors
d'enfant.
Moi, je travaille un grand format.
Très grand format.
Oui, plus grand que en format.
Peut-être pas quand même le format qu'on voit là.
À 3. Voilà, plus grand que ça fait le double.
D'une page d'album.
Oui,
quoi.
Voilà.
Ah, d'accord,
pour pouvoir être à l'aise, oui. Voilà.
D'accord, ils mettent tous les détails. Quoi.
Voilà, parce que c'est vrai que oui, j'ai tendance à mettre beaucoup de choses dans les cases.
D'accord. Non, ce qui donne beaucoup de richesse à la BD et aux albums.
Et puis chaque page s'organise en bande dessinée. C'est, ouais. En fait, chaque page, c'est une illustration, mais composée de plusieurs cases narratives. Donc il faut à la fois que la planche soit bien dans son ensemble, qu'elle tienne le coup, mais il faut aussi à la fois que dans chaque case, les textes et les actions soient compréhensibles. Voilà, il faut pas qu'il y ait de doute sur ce qui se passe, quoi. Donc ça doit être toujours très clair, quoi.
Ouais, surtout que vous travaillez quand même pour un public jeune, donc vous êtes, vous pouvez pas donner des choses trop complexes, faire trop d'ellipses.
Non, du tout.
On est obligé de chaque case, chaque dessin doit être
oui,
évident.
Oui, ça se déroule de façon chronologique.
Ouais, on est dans une lecture quand même qui doit être assez aisée. Un point aussi, on voit que vous êtes beaucoup travaillé dessus. Donc, alors, c'est sur le langage, le vocabulaire aussi. On s'aperçoit que c'est très recherché. Et je pense que toi, Catherine, aussi, tu as beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle le lettrage. Le lettrage, c'est-à-dire, on va prendre une case.
Oui, le choix d'écrire. J'écris les bulles à la main en cursive. Parce que c'est l'écriture d'apprentissage des enfants.
On voit bien ce type d'écriture, on voit comment ça s'appelle le cursif. Voilà. On voit que pour que les enfants qui commencent à lire, ça soit assez
aisé. On voulait écrire comme eux écrivent.
Moi, graphiquement, je trouvais ça assez joli aussi.
En plus, c'est
en
joli,
fait,
oui, c'est vrai.
Et je trouvais que ça s'accordait avec le dessin. Parce que une vilaine typo, une vilaine écriture, ça peut aussi gâcher un dessin. Donc, il fallait trouver quelque chose d'harmonieux. Et en plus, il nous a semblé que c'était plus facile à lire. Pour les enfants qui commençaient juste
à la lecture,
à savoir lire.
On l'aperçoit quand on regarde sur l'album, on s'aperçoit aussi que le lettrage est assez grand pour qu'il y ait un réel confort de lecture
pour
tous les publics, que ce soit les enfants ou même les plus grands qui portent des lunettes et qui ont des difficultés de lecture. C'est vrai que ça donne, il y a une grande fluidité dans la lecture des histoires et dans la lecture du texte. Et toi qui es romancier, donc tu as beaucoup travaillé sur le vocabulaire, tu as fait des recherches.
Pour moi, c'est hyper important. C'est-à-dire que. Avant toute chose, il y a une histoire à raconter, quoi. Oui. Pour moi, quel que soit le support, ça commence par une histoire. Il faut que l'histoire tienne le coup. Il faut que les personnages aient leur propre langage. Tout le monde ne peut pas parler de la même manière. Ça, c'est un truc qu'on apprend en lisant Tintin, hein, tout simplement. Dans Tintin, chaque personnage a son registre lexical, sa façon de parler. On peut lire, si on vous lit un Tintin sans que vous voyez les images, vous savez qui parle. Et ça, c'est un truc qu'il n'y a pas dans beaucoup de bandes dessinées. Hein. Moi, j'aime bien revenir aux fondamentaux. Parce qu'on parlait de Goscinny tout à l'heure. Moi, je sais que moi, mes BD références, c'est Jean et Pierre Louis, les Schtroumpfs, c'est Spirou. Les histoires sont simples, les découpages sont simples, mais très efficaces, très compréhensibles. n'y a pas de vue tarabiscotée, il n'y a pas de déformation, il n'y a pas d'ellipse temporelle incompréhensible, Peyo, il n'y a pas tout ça. Jean et Pierre-Louis, les personnages sont toujours bien campés, on n'a pas de vue en extrême plongée ou contre-plongée, c'est-à-dire vraiment des angles... des angles qui pour moi sont pas encore complètement dans le vocabulaire d'un enfant de 6 ou 7 ans quoi. On a un découpage qui est assez théâtral, c'est-à-dire on est souvent au niveau du regard, voilà, et c'est à la fois descriptif et imagé quoi. On comprend ce qui se passe, voilà. Du moins on essaye en tout cas. Oui, là, voilà, sur trois cases muettes, par exemple, voilà quoi.
Il n'y a pas besoin de texte, on voit bien ce qui se passe. Où est Kaki,
évidemment, il roupille quelque part, il suffit de le trouver quoi.
Oui, Marietta qui va. Donc, alors, autre élément important, je pense, dans cette bande dessinée, les couleurs. Parce que Catherine, c'est quand même de ton ressort. Et les couleurs, parce qu'elles sont quand même. Très chatoyant.
Oui, ça, je m'en occupe pas, oui.
J'adore ça.
Totale confiance.
Fait. J'adore les couleurs, la couleur, et pour moi, ça vient assez aisément. Donc, l'un n'allait pas sans l'autre, en tout cas. Ça fait partie intégrante du dessin. Et voilà. Donc, pour moi, c'était important d'avoir des vraies couleurs, des véritables couleurs pour Hôtel Étrange.
Ouais, là, on voit bien que mais tes choix de couleurs, c'est comme tu les as fait comment?
Comment je travaille pour les choix de couleurs?
Ouais, mais non, mais pourquoi tu choisis? Voilà, quand on voit, il y a des verts, il y a du vert, du rouge, du bleu. Tu prends pas des couleurs, tu les travailles pour.
Alors d'abord, les couleurs, elles sont travaillées sur ordinateur. Mais au fond, ça reste un outil et je travaille de la même façon que si je prenais mes aquarelles ou les gouaches. Donc j'ai toute une gamme, je choisis par une harmonie pour chaque planche, ouais. Avec une gamme de couleurs que je vais utiliser en fonction de l'extérieur. Si c'est une scène extérieure, une scène intérieure. Bah, voilà. Par exemple, la scène de ski avec Kaki, c'était froid dans les bleus, donc je suis restée dans une gamme de bleus. Ouais. Donc j'ai ma petite palette. Hein. C'est pas une palette en papier, mais c'est la palette sur l'ordi dans laquelle je vais piocher avec mon outil pinceau. Voilà, c'est exactement la même façon de travailler. Et puis, pour les scènes d'intérieur, ben, c'est des couleurs plus chaleureuses. En tout cas, c'était très important pour nous d'avoir des changements d'harmonie de couleurs en fonction du déroulement de l'histoire. Et c'est vrai que je crois que les couleurs sont assez variées.
Ouais, on voit ici autre.
Dans chaque.
L'intérieur de l'hôtel, oui, on le veut chaleureux tout le temps. Donc,
c'est du bois, voilà. Ça reste un univers montagnard et rural. Voilà, c'est là.
Là, c'était l'intérieur.
Là, c'est
du
des
gros
petits
grouille.
Croquis de recherche, voilà. Avant de dessiner des personnages, donc il faut que.
Oui, donc on voit que tu.
Avant de les dessiner des dizaines de fois pour l'album, je suis obligée de m'entraîner.
Donc ça, c'est des petits croquis que tu fais comme ça.
Les recherches en fait.
Des recherches, on voit un gâteau. Ouais. Mais ça, tu les fais à la main. Tu les fais à l'ordinateur ou à la main?
Ah non, tout ça, c'est à la main. C'est en traditionnel, crayon de papier, aquarelle.
D'accord.
Vraiment, l'ordinateur, là, je m'en sers uniquement pour la couleur.
D'accord.
Et à la fin, quoi. C'est la dernière étape.
Donc on voit bien là dans les deux cases. Donc tu as d'abord le crayon, le noir et blanc à gauche. Là,
c'est l'ancrage, encre de Chine et plume.
Ouais, et après la mise
et
en couleur.
Et après, les planches sont scannées et puis la mise en couleur est faite sur l'écran. Voilà.
Tout à l'heure, Florian, tu parlais de ton inspiration, toi, au niveau des personnages, au niveau des contes. Tu étais très proche un peu de ce que faisaient un peu les anglo-saxons, mais beaucoup les scandinaves, et en particulier les Moomins. Mondes, justement, où justement, c'est la famille, le groupe qui est important. C'est ça qui prédomine dans la détermination des histoires quoi, et des envies que vous aviez. Quoi. Pour nous en dire un peu plus sur ce monde-là.
Je sais pas pour ceux qui connaissent ou pas les Moomins, mais j'en discutais encore avec un ami réalisateur il y a pas longtemps qui est aussi fan des Moomins, il est anglais, et il disait effectivement quand on voit ça, on l'oublie jamais. Et il dit le dernier que j'ai lu, j'avais 20 ans, il en a aujourd'hui près de 60, mais il dit c'est toujours absolument frais dans mon esprit. C'est vrai que Tove Jansson, c'est pour moi un des plus grands auteurs jeunesse du XXe siècle. Certainement avec Maurice Sendak et Tommy Ungerer, qui pour moi sont les trois maîtres du genre absolument incontestables. Ils ont apporté réellement quelque chose, notamment Tove Jansson, avec effectivement cette... Il y a une particularité vraiment dans Moomin, c'est que qu'on a vraiment voulu reprendre dans Hôtel Étrange, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de méchant, ça n'existe pas. C'est vraiment une histoire de famille à qui il arrive des choses, même si la famille est imaginaire et que les personnages sont imaginaires, c'est pas grave. Ça reste, comme disait Catherine, une fratrie, ça reste des gens qui vivent ensemble et qui s'apprécient avec leurs qualités et leurs défauts, et il leur arrive des choses... qui ne sont pas dues à un méchant, mais qui sont dues à soit des causes naturelles, voilà, comme des tempêtes. Dans Moomin, il y a la comète, il y a l'inondation. Enfin, c'est voilà, des choses auxquelles il faut faire face tous ensemble. Ou bien, après, des histoires qui naissent, comme on disait, d'un thème. Par exemple, l'argent, de rencontrer des brigands. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un brigand ? Pourquoi il a tant besoin d'argent ? Pourquoi, etc., etc. C'est bien de poser des questions comme ça, quoi. Parce qu'on voit beaucoup de brigands dans l'histoire pour enfants, mais finalement, on ne sait pas trop pourquoi ils sont brigands, quoi. C'est, mmh. c'est intéressant de se poser la question, en tout cas pour les enfants, quoi.
Ouais.
Donc, dans le tome 3, c'est vrai que le pouvoir, c'est un thème qu'on voulait vraiment traiter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une couronne et qu'on se prend pour le roi, c'est très rigolo parce qu'on peut faire ce qu'on veut à tout le monde, mais ça va aussi avec des responsabilités. Et le problème, c'est qu'évidemment, Kaki ne voit que les avantages et pas les inconvénients de la chose, quoi. Donc, c'était intéressant de traiter ça, quoi, de montrer qu'effectivement, on a aussi des devoirs envers ses amis, envers les autres. Et il faut voir ce qu'on peut, comment on arrive à vivre tous ensemble avec ça, quoi.
Sans faire la morale.
Oui, jamais. Non, mais évidemment, ça laisse...
On remonte le moral sans faire la morale, voilà. Dans Hôtel Étrange.
C'est très bien dit, ouais.
Voilà, l'idée est vraiment là, quoi. C'est-à-dire qu'on laisse... on donne pas forcément une solution définitive ou un point de vue. C'est qu'en fait, chaque personnage a son point de vue. Et pour moi, à la fin, l'enfant doit se faire le sien, quoi. C'est très important de ne pas fermer toutes les portes dans un récit. C'est ce que disait un prof de français. Un bon récit, il disait, à la fin, c'est quand on ferme la porte et qu'on ouvre la fenêtre. Et ça m'est toujours resté. Et j'essaye toujours, que ce soit dans mes romans ou dans les scénarios d'Hôtel Étrange, c'est toujours de fermer la porte. C'est-à-dire l'histoire se termine, mais on ouvre la fenêtre. C'est-à-dire que... À vous de regarder par la fenêtre et de vous dire qu'est-ce que j'en retiens, c'était quoi l'idée, quelle est la réflexion derrière, etc. Chacun se fait sa fin, en fait, de l'histoire.
Donc, est-ce que... Je ne sais pas si vous inscrivez réellement dans quelque chose qui est de la science-fiction, du fantastique, ou plutôt du conte.
La fantaisie.
La fantaisie, tu dirais, ouais.
C'est un univers imaginaire avec des personnages imaginaires, mais... De là à dire que c'est de la science-fiction, c'est...
Je crois pas, non, c'était une question. Je crois pas, non.
Non, je pense pas, non, c'est pas de la science-fiction, mais...
Tout à l'heure, tu parlais, toi, des Schtroumpfs, de Johann Eperluid, qui sont des univers qui sont de fantasy, mais où il y a aussi des... Enfin, moi, je trouve qu'il y a une notion par rapport aux contes traditionnels qu'on voit...
Oui.
Il y a quelque chose qui s'en rapproche un peu, quoi, de l'histoire qu'on raconte aux enfants pour le plaisir de... Comme ça, mais il y a où l'enfant doit quand même... retenir quelque chose sur l'apprentissage des relations avec les autres.
C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est le principe du thème et d'arriver à faire des choses vraiment pour les enfants, c'est-à-dire en se faisant plaisir à soi, évidemment, mais sans oublier le public qu'on souhaitait toucher au départ, quoi. Donc d'essayer de ne pas se perdre. Je disais, on fléchit vraiment les jambes pour regarder les enfants dans les yeux, et c'est toujours la préoccupation qu'on a avec Catherine, que ce soit au dessin ou au scénario, c'est de toujours essayer de les toucher et de ne pas les regarder de haut, mais d'essayer vraiment de se mettre à leur niveau pour leur parler dans les yeux, quoi. Et ça, c'est pour nous quelque chose de très important, dans la façon qu'on a d'écrire et dessiner Hôtel Étrange, quoi.
Oui, donc vous mettre à la portée des enfants. Est-ce que le fait que vous ayez eu des enfants vous a aidé ? Est-ce que vous êtes inspiré aussi pour des idées qui sont venues de votre vie personnelle, finalement ?
Le côté bougon de Kaki, on peut dire que c'est des petits clins d'œil au passage des ados de nos enfants. Parce
oui,
qu'on a
c'est
des
sûr.
Grands enfants. Ouais. Mais sinon, non. C'est plutôt notre enfance à nous, je dirais. Plutôt, et nos souvenirs et ce qu'on a aimé et ce dont on se souvient.
Et c'est comme de clore les histoires, tu vois, c'était important pour nous de faire vraiment des albums dont l'histoire se termine, de pas de choses à suite, parce que moi, je me suis mis dans la peau d'un enfant. Quand on a 6 ans et qu'on attend la suite pendant 3 ans, c'est un tiers de ta vie, c'est comme si je te demandais d'attendre le prochain 13 pendant 20 ans. Et tu me dirais, putain, c'est long quand même, 20 ans, hein, la vache. Surtout. Et donc, l'idée de finir à chaque fois une histoire, c'est aussi pour ne pas créer une sorte d'attente qui est impossible pour un enfant, d'attendre 2 ans pour la suite d'une histoire. D'abord, ouais, tu passes de 6 à 8 ans, tu lis autre chose pratiquement. Ouais, ouais. Et puis, en plus, tu vois, c'est-à-dire on change presque d'univers, quoi. Donc, nous, on essaye de faire un album par an, mais à chaque fois, il se termine pour qu'on crée pas une espèce de fausse attente sur qu'est-ce qui va se passer. Mais voilà, parce que pour moi, 2 ans dans la vie d'un enfant de 6 ans, c'est un truc énorme, quoi, déjà. Donc,
Oui, il est passé à d'autres lectures pratiquement, hein, très souvent, parce que là, on est quand même ciblé sur créneau, oui, bah, je veux dire. Oui. On peut commencer à raconter les histoires, à les raconter aux enfants à partir de 5 ans, je pense. Mais là, avec un dialogue, avec quelqu'un d'accompagnement, et puis dès qu'ils savent lire, ils peuvent commencer à...
Ouais. Nous, c'est ce qui se passe. Il y a plein dans nos lecteurs, oui, il y a plein de parents qui nous disent qu'ils le lisent à des enfants de 4 ans sans aucun problème et qu'ils comprennent tout, comprennent absolument tout de l'histoire. Donc ça, c'est pour nous, c'est de bon retour parce que ça...
C'est les parents courageux qui veulent bien lire dans les bulles. Voilà.
Non, mais ça nous permet éventuellement de rectifier des choses. Si on nous disait, moi, mes gamins, si tu entends 20 fois mes gamins n'ont rien compris, il faut quand même, il faut se poser des questions. Ouais. Quoi, hein.
Alors, je vais peut-être dire quelque chose qui peut choquer un peu, mais moi, j'ai l'impression qu'une série comme Est-elle étrange, telle qu'elle est conçue au niveau des enfants, par son lettrage, par sa composition, est-ce qu'on peut considérer que ça peut être un apprentissage vers la lecture ? Parce que c'est quand même un débat. C'est un débat souvent, beaucoup de gens nous disent la BD empêche de lire. La BD, est-ce qu'elle empêche,
ah bon, empêche de lire? Oui, oui, c'est en tout cas, c'est sûr que c'était pas notre motivation première de l'apprentissage de la lecture. Donner le goût et aux enfants de lire, et ça reste quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Mais moi, je sais pas. Honnêtement, je fais pas mal d'interventions dans les écoles et souvent les enseignants me disent qu'ils ont remarqué que des enfants qui ne lisaient pas allaient facilement vers Hôtel Étrange et commençaient à découvrir la lecture comme ça. Mais bon,
tout cas, le seul truc qu'on peut dire sur la lecture, et ça c'est valable pour tout le monde, hein, tout le monde se souvient, même parmi les adultes présents, le livre qui a changé... Je pense que ce qui donne envie de lire, c'est ça. C'est le livre, quand on l'a terminé, on n'est plus pareil que quand on l'a commencé. Chacun, je pense que si on interroge tout le monde ici, ce sera un titre différent pour chaque personne. Mais en tout cas, l'amour de la lecture et l'envie de ressentir une fois encore ce truc à l'intérieur de soi qui est de se dire on n'est plus pareil quand on a fini un bouquin que quand on l'a commencé, ça, c'est quelque chose après lequel on court ensuite. Et c'est pour ça qu'on devient lecteur. Donc, nous, voilà ce qu'on a essayé de faire à notre niveau, c'est d'essayer de créer un livre, un univers qui fait que on a envie de lire d'autres bouquins ensuite pour essayer de retrouver ce petit frisson, ce petit bonheur qu'on a eu le temps de ces 38 pages qu'on lit. Pour moi, la lecture, elle tient à ce seul mystère, hein, tant qu'on n'a pas trouvé le bouquin qui nous a changé ou qui nous a fait réfléchir. On n'aime pas trop la lecture, on ne voit pas tellement l'intérêt. Quoi.
Oui, oui, et peu importe sa forme, bande dessinée, roman, magazine.
Ouais, je crois que ça
l'important, c'est de lire.
Il
n'y
a pas de mauvaise lecture, à mon avis. Enfin, je pense que tous les vecteurs sont bons pour entrer dans le plaisir que c'est de lire une histoire et de se dire à la fin, ah, purée, j'ai passé un très bon moment.
De se rendre compte que la lecture,
voilà,
c'est
je ça pense peut pas être un qu'il plaisir. Y a des livres mieux c'est que d'autres pour ça.
Ouais. Ouais, ouais, après, il faut que la lecture soit un plaisir, quoi. Ouais.
Donc, c'est le truc le plus important. Ouais,
donc on voit bien que ton travail, votre travail à tous les deux, et en particulier le tien sur le découpage et tout ça, il vient aussi de ta formation. Toi, tu as travaillé pas mal sur le dessin animé, tu as travaillé sur d'autres supports. Et en quoi t'ont-ils aidé pour travailler sur cette série?
Beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est une expérience. C'est ce que je dis, quand on fait un bouquin, on n'est qu'une addition, en fait. C'est-à-dire, on est une addition de ce qu'on a vu, lu et entendu à ce moment-là. Si on devait faire le bouquin 2 ans après, ce ne serait pas le même, parce qu'on aurait vu, lu et entendu d'autres choses qui feraient que le bouquin serait différent. Donc, Ça fait un peu comptable comme ça, mais j'aime bien le dire de cette façon parce que c'est, je pense que c'est le truc juste, quoi. Maintenant, mon expérience, oui, moi, c'est 25 ans que je travaille dans le dessin animé. Je suis réalisateur. C'est un autre monde, hein, puisque c'est un monde qui est beaucoup plus guidé par la finance, ouais, hein, que la bande dessinée, évidemment, hein, puisqu'une série coûte 5, 6, 7 millions d'euros. Voilà, un album, ça coûte 10 000 euros, donc on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Donc ça m'a appris à travailler de façon rationnelle et de façon efficace. Et c'est vrai que pour le découpage, en tout cas, le fait d'avoir fait du storyboard pendant 10 ans, c'est évident que ça m'a appris des raccourcis, des choses que je tiens pour certaines dans leur efficacité, dans leur façon de montrer une scène. Voilà. Mais l'avantage, c'est que Catherine ajoute ensuite, puisque c'est un storyboard, c'est qu'une étape de production. Un storyboard, c'est jamais imprimé, ça part à la poubelle une fois qu'il est terminé, quoi. Alors que là, bon, on parle quand même, voilà, de dessin, et Catherine ajoute évidemment, avec son dessin, son ancrage et ses couleurs, ajoute quelque chose, évidemment, à mon premier travail. C'est indéniable.
J'ai toujours droit à au moins une ou deux planches grandes.
Comme ça,
pour
ouais.
faire une grande illustration.
Oui, mais ça moi j'aime bien. Ouais, bon.
J'imagine que ça, c'est un plaisir.
Oui. Oui, puis après, c'est comme un jeu, il y a plein de choses à voir,
ça,
à chercher.
Ça, c'est les souvenirs pour moi de Jacobs et tout ça, où il y avait les grandes pages dans les premiers, et ça, bon, la grande illustration, comme il y avait dans les Tintins et tout ça, ça fait partie des trucs voilà, auxquels je tiens moi aussi, quoi.
Donc, alors, quand tu as ce genre de planche, tu t'amuses à mettre des clins d'œil, des choses comme ça ?
Des clins d'œil, je ne sais pas, mais j'ai la place, donc je peux cacher. Oui, on va y m'amuser beaucoup. Avec tous les petits personnages. Là, c'est dans Sa Majesté les Champignons. Donc, il y a des petites bêtes féroces qui pincent et qui mordent. Et qui bouffent tout, en fait. Voilà. Donc là, c'est le moment où les personnages essayent de les capturer pour qu'elles ne détruisent pas le village du petit peuple, là, des champignons. Voilà.
Donc, on voyait
donc on les capture, on ne les tue pas.
Oui, on les capture, oui, pour les mettre ailleurs.
Donc, on voyait aussi cette image là qui est finalement de la mise en trois dimensions de votre univers.
Là, c'est l'image d'une exposition qui a eu lieu à Angoulême. Avant même que Hôtel Étrange soit... Hein, c'était encore au stade de travail, ça. C'est des recherches qu'on voit, du logo, des personnages.
Mais alors, c'est un travail que... C'est vous qui l'avez fait, ça ?
Oui, c'est nous qui l'avons fait,
ah,
en
donc,
fait.
C'est toi qui as fait tous les personnages en relief.
En fait, c'était le moment où on essayait de vendre notre projet.
Ah, d'accord.
Donc, voilà. Donc, c'est une exposition à Angoulême, à la Maison des Auteurs, où il y a pas mal d'éditeurs qui passent.
Voilà. Donc, vous avez mis
on avait la chance de pouvoir exposer.
Alors, mais ce que tu as fait en relief, là, toi, après, est-ce que ça t'a servi pour ton dessin ou des...
Non, c'est un plaisir à côté, mais moi, ça, en plus, mes personnages sont très simples, très ronds, avec une construction facile. Et donc, je n'ai pas besoin de tourner autour, etc., d'avoir les personnages en volume pour les travailler.
D'accord. Donc, vous travaillez sur le nouvel album là actuellement. Y a-t-il des choses aussi autrement que vous auriez envie de faire justement dans ce genre d'univers ou d'évoluer vers autre chose, non ? Vous avez peut-être ou vous restez sur Hôtel Étrange ? J'imagine que ça vous prend beaucoup de temps, non ?
Bah moi, ça me prend tout mon temps en fait. J'ai le temps de faire quelques commandes à côté, mais peu. Ça me prend 10 mois pour faire un album en fait. Ouais, 9 à 10 mois. Donc, et comme on essaye d'en sortir un à chaque automne, voilà, moi j'ai le temps.
Et toi, Florian, aussi, tu as comme une activité de romancier à côté, puisque tu écris des romans de science-fiction qui s'adressent plutôt à quel public en général ?
Ben, ça dépend. Non, alors c'est pas des romans de science-fiction. J'ai essayé un peu tous les genres, mais là maintenant c'est adulte, quoi. J'ai fait pas mal de jeunesse, évidemment, puisque je suis né dedans. Par l'animation et tout ça, mais oui, moi j'ai vraiment beaucoup de casquettes. Donc c'est vrai que j'ai un emploi du temps assez chargé, globalement. Mais oui, non, mon prochain roman sort chez Plon au mois d'avril prochain. C'est un pur roman adulte, quoi. Le précédent aussi, 8e Continent, c'était un roman plutôt, grand ado, adulte, quoi.
Alors, un peu complémentaire de ton travail là, sur Hôtel Étrange, tu m'as dit que tu étais aussi directeur artistique chez Sarbacane pour une collection de BD qui s'adresse aussi à la jeunesse. Donc, je veux dire, quel va être ton axe de travail par rapport aux auteurs ou des choses ?
Ben oui, on a commencé ça au mois de juin. Oui, Sarbacane m'a proposé de devenir le directeur l'éditeur BD jeunesse chez eux. Donc, ce sera une expérience de plus. J'ai accepté. Donc, on cherche, Sarbacane cherche à renouveler en fait son catalogue BD jeunesse. Et donc, on cherche des projets. Donc, c'est d'abord un scénario. Pour moi, il n'y a pas à tortiller. Même un joli dessin ne rattrape pas une mauvaise histoire. C'est impossible, hélas. Donc, on cherche des tandems. Où le dessin et l'histoire sont complémentaires, mais avant tout des histoires. Moi, j'ai besoin de lire une histoire et j'ai besoin de savoir le début, le milieu et la fin pour pouvoir m'engager avec un auteur, quoi. Donc, mais la ligne éditoriale, oui, va être vraiment jeunesse.
C'est-à-dire
encore une fois, on plie les jambes.
D'accord, on se met à la portée des enfants.
Voilà, ça c'est... On a vraiment envie d'essayer ça, parce que moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Je trouve qu'il y a beaucoup de bandes dessinées jeunesse qui n'en est pas, qui sont en fait des adultes qui écrivent pour des enfants qui n'existent pas, quoi. C'est-à-dire des enfants qui fantasment, mais on a l'impression qu'ils n'en ont jamais vu, jamais écouté ou jamais approché même, quoi. C'est-à-dire c'est une idée d'enfant... c'est souvent ce que dit Alison Lurie, hein, sur la littérature jeunesse ratée. Elle dit c'est ça, c'est quand c'est les parents qui aiment l'histoire, mais pas les enfants, quoi. Voilà, c'est-à-dire que c'est le public, c'est les enfants, hein, c'est pas les parents. Donc on en parlait tout à l'heure. Hein, si Tom Sawyer a été un succès, c'est les parents l'ont détesté, mais tous les enfants l'ont adoré parce que voilà, il fume, il ment, il vole, il triche. On montre aux enfants que même les adultes peuvent un peu mentir parfois, un peu tricher. C'est important de pas avoir l'impression que tous les adultes sont porteurs du savoir, quoi. Donc il faut vraiment travailler pour des enfants qui existent, voilà, réels, en chair et en os, et pas des fantasmes d'enfants tels qu'on aimerait qu'ils soient quand on écrit un livre, quoi.
D'accord. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que quand vous faites Hôtel Étrange, vous faites des livres que vous auriez aimé avoir lus étant enfant?
oui, évidemment, oui.
Enfin,
ouais, vraiment, c'est
oui.
Vraiment ce que
oui,
vous
avez... parce qu'on s'amuse vraiment à écrire oui. Nos histoires et à les dessiner et qu'on a envie de continuer, c'est sûr qu'on ça nous aurait plu, oui.
C'est bon, ça. Est-ce que vous amusez tous les jours parce que
tu vois, oui, le strip du haut, quoi, avec les bandits qui sont là à pleurer parce qu'on leur a piqué un truc, là, c'est. On s'est vraiment marré, quoi. Ils se lamentent, on leur a piqué leur saphir. Tu parles. Dire pour des voleurs, se faire voler, c'est quand même assez nul, quoi.
Ouais. Donc j'évoquais un truc peut-être un petit anecdotique, mais bon, vous êtes mariés, vous vivez ensemble. Est-ce que bon de travailler en couple, ça pose des difficultés?
Mais on a attendu plus de 20 ans déjà, donc je pense que c'était sage. On a fait chacun nos trucs séparés d'abord.
Ouais, on a une carrière séparée, chacun de notre côté, donc. Il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là. Et puis, le premier album, on va dire que c'était peut-être un peu houleux. Il fallait que chacun trouve sa place et tout. Mais maintenant
oui,
ça va. On a trouvé...
C'est forcément un peu difficile, ouais, par moment. Ouais.
Et puis, on a chacun des ateliers séparés. Hein. On ne travaille pas toute la journée ensemble.
Bon,
voilà.
Écoute...
C'est sympa, c'est ce que disaient les enfants à la maison. Vous engueulez uniquement sur Hôtel Étrange, ce qui est plutôt bien.
C'est vrai qu'on a démarré.
ils étaient tranquilles, non?
C'est vrai qu'on a démarré par un album. On ne savait pas du tout si ça allait continuer. Et quand on leur a annoncé qu'on allait signer pour un deuxième, ils ont fait « Oh non !»
D'accord. Alors, vos enfants, je ne sais pas s'ils avaient là... Enfin, ils étaient peut-être grands quand
ils
vous avez fait autant...
Non, ils étaient grands déjà, ouais.
Alors, quand ils les ont lus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Même s'ils étaient grands.
Bah, eux, ça leur plaît quand même parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture dans Hôtel Étrange. Ça plaît aussi à des adultes. C'est ça. C'est ce qu'on
bah
a.
Nous, on a déjà un chalet de famille à la montagne, donc il ressemble énormément à Hôtel Étrange. Donc eux, ils savent pourquoi il est là et parce que c'est l'endroit où on écrit à chaque fois le tome suivant l'été, quoi, etc., etc. Donc c'est un endroit où on va assez régulièrement, où on écrit assez. On est vraiment assez loin de tout et pour écrire, c'est vraiment génial, quoi. C'est un endroit. Et je pense que ce n'est pas par hasard qu'ils se soient retrouvés un jour comme ça, une sorte de personnage principal d'une histoire, ce chalet, quoi, où on met que des gens comme ça qui s'entendent bien à l'intérieur et qui n'ont pas envie qu'on les dérange. Quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi, quand même. Hein. Mais bon. Donc,
c'est vrai, j'ai oublié de dire qu'il existait.
Oui,
l'hôtel
voilà.
Étrange.
Bon, pas tout à fait comme ça. Il n'y a pas d'horloge dessus, ni de. Mais bon, oui, il existe.
On ne va peut-être pas dire où il est parce qu'il va y avoir des visites en pagaille, non? Bon, ben, Catherine.
Il est dans les Alpes.
Il est dans les Alpes, oui. Bon, je vais demander si on va conclure là maintenant sur Hôtel Étrange. Donc, il y en a 4 albums de parus actuellement. Catherine, tu feras des signatures.
Je crois que je commence
tout à l'heure et puis dans l'après-midi. Je vous invite aussi à voir avec les enfants l'exposition qui est dans la salle Chai, où il y a des jeux, des animations autour. Hein.
Et ça explique un peu, voilà, on voit très rapidement comment on travaille, quoi, ouais. ce qu'on a dit, on peut le voir réellement, quoi. C'est-à-dire ce que c'est que le storyboard, etc., et le découpage.
C'est une exposition assez didactique sur comment on fait une bande
dessinée.
Oui,
c'est vraiment didactique, oui, c'est fait pour, quoi.
Et puis il y a des animations autour, j'ai vu, il y a quand même pas mal de choses qui se passent, quoi. Juste, si on a encore quelques minutes, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle ?
Est-ce qu'on a été super clair ?
Est-ce que vous avez été satisfait de ce qu'on a dit ? Oui, je vous en prie. Est-ce qu'on peut avoir un micro ?
Attention.
Bonjour, moi je suis éducatrice technique spécialisée. Je travaille avec des adolescents qui sont, qui ont une déficience intellectuelle. Et je voulais savoir, enfin, moi j'ai l'impression en fait que vos albums peuvent aussi s'adapter à ce type de public. Est-ce que vous pensez que c'est possible, sachant que c'est des élèves, hein, qui n'ont pas accès à la lecture, pour certains. J'ai l'impression quand même que les thèmes abordés sont très éducatifs finalement. C'est les mêmes thèmes que moi je suis obligée de traiter au quotidien finalement, l'autorité, ce genre de choses. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Oui, moi je pense que ça peut être adapté et c'est surtout si vous faites un travail avec eux autour de ça, si vous leur lisez ou je... Oui, je pense que oui, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment essayé de penser à des histoires très simples, linéaires, avec un déroulement chronologique dans le temps qui simplifie beaucoup la lecture et la compréhension. Voilà.
Oui, j'ai rien à ajouter. Oui, c'est ça. Je pense que ça peut correspondre. En tout cas, les histoires sont simples et se terminent. Donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, on ferme la porte, on ouvre la fenêtre, on laisse aussi à chacun son interprétation, quoi. Faut pas tout expliquer, ouais, et tout verrouiller, quoi, dans une histoire, à mon avis, pour les enfants, quoi.
Ouais. Et peut-être que certains personnages dans lesquels peut-être vous comment dire.
Mais chacun peut se reconnaître en fait, dans les personnages.
Peut-être se reconnaître dans un personnage ou dans un autre, trouver des caractéristiques. Par exemple, le personnage de Kaki qui est bougon ou qui ne veut pas faire les choses. Ça peut être des personnages sur lesquels on peut avoir un miroir peut-être par rapport aux adolescents, c'est des ados avec qui vous travaillez, quoi.
Bon, voilà.
Ouais.
On a terminé.
Ben, merci Catherine, oui. Merci Florian. Et ben,
merci à vous.
Merci à vous.
Moi, je voulais remercier les enfants là, oui. Qui sont là et qui ont été très patients.
Qui ont été très sages et très patients.
Parce que voilà. C'est long pendant une heure d'écouter les bavardages.
D'adultes.
Des grandes personnes.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci. Bon après-midi.